Ce soir, sur Campus Grenoble.
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture.
Et de la musique.
Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble 90.8.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle apérophonie sur Radio Campus Grenoble 90.8. Aujourd'hui on se retrouve avec Fanny et Colinda qui viennent nous parler de l'autisme et je vais tout de suite leur laisser la parole. Bienvenue sur Radio Campus Grenoble.
Salut, du coup moi c'est Fanny, je suis étudiante relais égalité. En gros, étudiant relais égalité, ça veut dire qu'on est une petite équipe de 5 et on organise des actions, des expos, des podcasts radio, comme aujourd'hui, de sensibilisation contre les discriminations, au sens large. Et du coup, aujourd'hui, on s'intéresse à l'autisme plus précisément. C'est pour ça qu'on a l'honneur d'être avec Colinda de l'association T-Spectre. Je te laisse te présenter.
Alors du coup, moi je suis Colinda, je suis présidente de l'association T-Spectre et je suis moi-même autiste.
Ok.
Et étudiante à l'UGA, au passage.
Et bah pareil, aussi étudiante à l'UGA. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'association? Est-ce que tu fais partie des personnes qui a participé à créer l'association à ses débuts? Si c'est le cas, qu'est-ce qui t'a amené à créer l'association? Comment ça s'est passé?
Alors effectivement, je suis l'une des personnes qui ont fondé l'association, donc on était quand même un peu plus que moi toute seule, hein. Genre on était une bonne dizaine au départ, et en fait ça a découlé notamment grâce au CSU, donc au Centre de Santé Universitaire, où on avait l'occasion en fait de participer à des groupes de parole autour de l'autisme, et en fait on s'est rendu compte en discutant les uns avec les autres que il y avait un vrai manque, il y avait un vrai manque de communauté à l'UGA. Mmh. C'était très compliqué de pouvoir discuter les uns avec les autres. On s'est rendu compte aussi que c'était compliqué d'avoir accès à des aménagements X ou Y. C'était très dur. Du coup, nous, au départ aussi, on voulait beaucoup avoir une salle pour pouvoir se reposer entre les cours, etc., pour pouvoir faire des pauses, des vraies pauses à midi.
Ouais.
Et c'est de ce petite chose-là qu'on est parti. Et en fait, on a fait, bon, ben, on monte une association, vu que ça n'existe pas, autant faire en sorte que ça existe.
Ok.
Voilà.
Et qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, l'asso? Vous êtes basé où? Vous êtes combien
Alors, du coup, on est basé nulle part, entre guillemets. On n'a pas de salle. Ouais. Pour l'instant, ça n'a pas du tout été possible encore de... Ça, sur le chemin, on espère, pouvoir mettre en place une salle de repos et du coup une salle d'association. Mmh. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, on est sur Discord en dématérialisé total.
D'accord.
Donc, on a aussi des mails, voilà. Donc, on a un serveur Discord privé réservé aux membres de l'association. Pas forcément des membres autistes, mais aux membres de l'association. Le but, c'est quand même de faire de l'aide entre pairs actuellement. On travaille beaucoup sur ça et sur créer du lien entre nous, créer une vraie communauté et un sentiment d'appartenance.
Vous arrivez à créer du lien justement avec simplement des outils numériques, enfin Discord, mail et tout? Ou est-ce que vous organisez quand même des cafés, je ne sais pas quel type d'événements vous pouvez organiser?
Alors oui, on organise des petites sorties. On a notamment eu une organisation d'une petite sortie au... marché de Noël en mois de décembre.
Okay.
On a fait, là, plus récemment, on s'est fait une après-midi jeu de société à la BU Bulle. D'ailleurs, merci à eux de nous avoir accueillis. Et là encore, on va organiser d'autres choses, etc. C'est des petits groupes généralement, mais ça plaît pas mal et on espère pouvoir continuer à les mettre en place.
Ok, super. Peut-être pour que tout le monde, aussi les auditeurs, auditrices, puissent avoir un peu les bases, est-ce que vous pouvez... est-ce que tu peux expliquer ce que c'est l'autisme? Voilà.
Alors l'autisme, c'est ce qu'on appelle un trouble neurodéveloppemental. Donc c'est un mot barbare pour expliquer qu'on est neurodivergent. Donc
ouais.
Quand on est neurodivergent, ça veut dire qu'on n'a pas le cerveau qui est câblé de la même façon que le cerveau d'une personne entre guillemets normale.
Mmh.
On va dire neurotypique à ce moment-là.
Mmh.
Pour l'autisme, il faut savoir que, de toute façon, toutes les maladies neurodéveloppementales sont de la naissance. très généralement génétique. Et on en meurt. Enfin, on meurt avec. On meurt avec. on meurt avec. C'est quelque chose qui fait intégralement partie de nous.
Et de l'identité.
Fait, voilà. Ouais. Et qui fait partie de notre fonctionnement de notre cerveau.
Ok.
Voilà.
Ok. Et j'ai appris, du coup, un peu récemment, parce que je me suis un tout petit peu formée quand même avant aujourd'hui pour avoir un petit peu des bases, mais que j'ai appris notamment, il y a beaucoup de troubles associés avec l'autisme. C'est fréquent, en fait, de pas juste être autiste, mais avoir d'autres troubles associés à ça.
C'est extrêmement fréquent, ouais. Au point où, généralement, l'autisme, actuellement, c'est généralement le dernier qu'on diagnostique.
Okay.
Assez terriblement, parce que c'est souvent celui qui prend le plus de place, entre guillemets. Il y a énormément d'autres troubles neurodéveloppementaux. Donc, ça peut être... genre la dyslexie, tout ce qui est 10 d'ailleurs, pas que la dyslexie. Il y a aussi beaucoup de troubles au niveau de dépressifs, des troubles anxieux très importants. Et il y a aussi tout ce qui peut être TDAH. Donc, non, je ne me souviens plus. je me souviens plus de la
chronique. De l'attention,
c'est voilà, ça. Voilà, c'est ouais. ça, le trouble de l'attention. Ouais. Truc très mal nommé, mais...
Okay.
Et du coup, c'est des choses qui sont très, très, très fréquemment ensemble. Il y en a d'autres, mais les plus fréquentes, c'est quand même ceci. Okay. Les 10, le TDAH et énormément de troubles de dépression et anxiété.
D'accord. Et sinon, l'autisme en lui-même, enfin le spectre autistique, ça peut se traduire par quoi concrètement dans la vie de tous les jours?
Alors, il y a plusieurs pôles, mais dans la vie de tous les jours, je pense que le plus handicapant, ça va probablement être le pôle sensoriel, où en gros, on ressent le monde très différemment, déjà les uns avec les autres, genre on a des ressentis très différents, mais par rapport à une personne neurotypique, quand on est autiste, on va ressentir les choses extrêmement plus fort. Par exemple, on peut avoir des douleurs quand on entend des zones trop bruyantes, on peut pas supporter certaines textures, on peut avoir l'impression qu'elles nous brûlent, on peut avoir la sensation que ça nous agresse la peau, ce genre de choses. Et ça est très compliqué à gérer dans la vie quotidienne parce que c'est les cinq sens qui sont impactés et généralement c'est compliqué de toujours les on peut pas toujours faire en sorte que ça ne se passe pas comme ça.
Ouais.
Genre, on peut changer de vêtements,
c'est ça.
Mais si c'est notre propre peau qu'on supporte plus...
Ah, c'est possible aussi.
C'est possible,
ah, oui.
Moi, je sais que, par exemple, je ne peux pas, dès 10 jours, je ne peux pas toucher mes mains.
Ah ouais, d'accord.
Genre, je ne peux pas frotter mes mains ensemble parce qu'elles m'insupportent.
D'accord. Donc, pour le sport, par exemple, ça peut parfois... Ouais.
Ça peut être une catastrophe. Ça peut être aussi l'extrême inverse.
Okay.
Du coup, de personnes qui ont besoin, par exemple, de faire énormément de sport pour ne pas ressentir leur corps, par exemple.
Ah ouais. Ok.
Et qui se dépensent énormément.
Donc voilà. En fait, finalement, ça peut se traduire par beaucoup de choses différentes.
Énormément. Ouais, généralement, ouais. Ce qui va amener au diagnostic de l'autisme, c'est souvent des problèmes sociaux, en fait. Ça va être l'absence d'amis ou des amitiés très étranges ou une façon de vivre le social très, très différemment. Une anxiété extrême au niveau des relations sociales, d'aller discuter. Genre des choses très basiques du style rentrer dans une boulangerie et commander un sandwich. Et ça fait être extrêmement compliqué.
Ce qui est utile.
Voilà, c'est des choses très basiques et très utiles qui peuvent être très compliquées. Et généralement, c'est par ces petites choses-là qu'on va arriver à un diagnostic.
Ok. Je me posais aussi une question parce que, bon, moi, sur le plan personnel, c'est pas que j'avais jamais entendu parler d'autisme avant ces séries-là, évidemment que si, mais je trouve qu'il y a eu de plus en plus des séries, des films avec des représentations sur l'autisme. Après, j'ai entendu dire qu'elles sont pas toutes incroyables en termes de représentation de l'autisme et que des fois, c'est très stéréotypé, etc. Mais bon, j'ai un avis très extérieur et très naïf sur la question. Des noms de séries comme ça, un peu en vrac, mais il y a Atypical qui vient à l'esprit, qui a, je crois, sur Netflix, ou le truc avec l'avocate Woo Young-woo aussi, une série coréenne. Peut-être que tu les connais pas spécialement ou que t'as pas d'avis, je sais pas, sur la question, mais si tu les connais, qu'est-ce que t'en penses, toi, de la représentation de l'autisme dans ces séries-là, qui sont quand même très regardées, très mainstream, quoi?
Alors, il y a des séries qui sont très intéressantes. Moi, je pense surtout à Everything is Gonna Be Okay.
Okay.
Probablement que peu de personnes le connaissent, mais ce qui est intéressant dans cette série, c'est qu'il y a plusieurs versions de l'autisme qui est représentée. Du coup, c'est très intéressant. dans les autres séries, c'est souvent compliqué. Mm-hmm. Parce qu'il y a toujours la question du personnage, par exemple, qui n'est jamais diagnostiqué. Type Sheldon, dans Big Bang Theory.
Ah oui,
il n'a jamais été diagnostiqué. Et pourtant, tout le monde peut, ou plus ou moins, dire que Sheldon est autiste.
Ouais.
Et pourtant, il n'y a pas de diagnostic posé. La série s'en moque tout le long.
Ouais, ouais.
C'est très compliqué. Mm. Et le stéréotype encore de l'homme surintelligent, ouais, etc. Ouais. C'est pas que ça. L'autisme, il y a des QI de tous les horizons, de très bas à très haut, comme dans toute la population. En fait. Genre, il n'y a pas genre, juste des gens très intelligents ou juste des gens très bêtes, non. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pareil, par exemple, dans Woo Young-woo, c'est très intéressant, parce que je l'ai vu aussi, cette série. Mm-hmm. C'est dommage parce que l'actrice n'est pas autiste. Ils auraient pu choisir une actrice autiste qui aurait eu probablement un peu plus de tact en la jouant.
Ouais.
Mais ça reste une représentation qui peut être fidèle à une forme d'autisme de quelqu'un. Après, je pense que ça aurait peut-être été un peu plus intéressant d'avoir une personne autiste à cet endroit-là. Et j'ai pas vu Atypical, mais apparemment, il y a quand même 2-3 soucis dans celui-là.
C'est ce que j'ai entendu aussi.
Notamment quand même au niveau de comment est éduqué la personne, avec notamment des choses un peu spéciales, la façon en fait dont il y a deux visions. C'est soit on doit apprendre à faire semblant suffisamment pour rentrer dans le mood, et donc s'oublier totalement, oublier ce qui nous blesse, etc. et faire que prendre sur nous. Et donc ça, c'est la partie un peu atypical de genre faire rentrer dans le moule à coups de marteau, voir si ça marche, ou alors adapter l'environnement et du coup, par adaptation de l'environnement, adapter la personne à la vie sociale. Nous, on préfère quand même cette version. Généralement, c'est un peu moins traumatisant quand même.
Ouais.
Du coup, c'est pour ça que cette série, elle est un peu controversée quand même.
D'accord. Et du coup, dans la série dont tu parlais, Everything is Gonna Be Okay, il y a plusieurs personnages autistes.
Voilà, c'est ça.
Ah, mais ça, c'est intéressant, parce que c'est vrai que dans toutes les autres, c'est toujours le personnage autiste, ce qui renforce aussi l'idée qu'il y a une manière d'être autiste pour les personnes qui regardent la série.
Alors que c'est pas ça.
Et en plus, ça enlève ce côté aussi d'une potentielle communauté. Moi, c'est pour ça que quand j'ai entendu parler de votre asso, je trouvais ça trop intéressant, parce qu'on n'entend jamais parler de l'autisme au prisme d'une communauté, au fait. On pense tout de suite à des gens isolés, parce que voilà, il y a cette idée que quand t'es autiste, t'as des difficultés de relations sociales, ce qui est vrai. Mais du coup, on pense... quand je dis « on », c'est... personne lambda neurotypique va pas penser à l'autisme au prisme de gens qui peuvent aussi fonder une asso, s'entraider, échanger, faire des cercles de parole, enfin...
Je pense très sincèrement que ça, c'est dû au fait que, genre, l'autisme, pour les gens, quand on leur parle d'autisme, ils vont tout de suite penser à un petit garçon. Ils vont penser à un enfant, tout de suite. Même encore actuellement, c'est très rare que quand les gens, on leur dit « je suis autiste et je suis adulte », les gens nous regardent bizarre. Genre. Oui, je peux être adulte et autiste et pas dépendante.
C'est à vie, comme
voilà,
tu l'as dit,
on est avec et on reste avec toute notre vie.
Ouais.
Et du coup, c'est un peu spécial ce truc. Mais je pense que c'est cette idée-là que, du coup, vu que c'est des enfants qui n'ont pas encore appris ou qui n'ont pas trouvé de père, ça provoque ce genre de choses.
D'accord.
À ce sujet, d'ailleurs, j'ai récemment vu un TikTok qui m'a fait mourir de rire d'une personne qui disait « Si dans votre groupe d'amis, vous avez déjà 3 ou 4 personnes qui viennent d'être diagnostiquées autistes, TDAH, que sais-je, allez vous faire diagnostiquer, il y a peu de chances que vous ne le soyez pas. » Parce que c'est ça aussi.
C'est
en fait, on
fou.
Crée nos petites communautés parfois sans même s'en rendre compte.
Mais complètement.
Du coup, c'est... le sentiment de communauté, c'est, je pense, un sentiment très nécessaire.
Ouais.
Et on en est totalement... Enfin, chez nous, c'est totalement absent, en fait, avant d'avoir un diagnostic. Parce qu'on se sent totalement hors de la communauté. Même si on est dans une classe, même si on est intégré, même si on est intégré, par exemple, dans des événements sportifs ou autres, on va se sentir absolument pas adapté. On le sait. Et avoir ce sentiment de communauté peut aider énormément. Énormément.
Ouais. C'est marrant, l'exemple que tu viens de donner. C'est comme dans un groupe d'amis, tu réalises que tout le monde est LGBT autour de toi. 9 personnes sur 10, c'était... Tiens, peut-être.
Peut-être que.
Peut-être que. Et je trouve ça intéressant ce que tu as dit tout à l'heure aussi. Tu as dit qu'on pensait immédiatement, pas à des adultes, mais à un petit garçon. Et tu n'as pas dit un petit enfant, tu as vraiment dit un petit garçon. Ce qui pose aussi question, et j'ai entendu dire qu'il y a un gros sous-diagnostic des filles autistes qui, du coup, sont, bah, si elles sont diagnostiquées, le sont en tout cas beaucoup plus tard. Est-ce que vous avez des pistes de réflexion, d'hypothèses du pourquoi, du comment
Alors, oui, énormément. Déjà, il y a les biais de genre énormes. Ouais. Et il y a aussi les anciennes recherches qui ont décidé qu'il y avait une fille autiste pour 4 garçons autistes. Ce qui est a priori totalement faux. On sait pas. Là, actuellement, on ne sait plus, parce que du coup, on n'a pas assez de chiffres pour faire le ratio. Mais a priori, ça s'équilibrerait. A priori. On n'est pas sûr, mais a priori, ça s'équilibrerait.
Okay.
Dans l'idée de cette idée de biais genré, une petite fille qui est timide, qui ne va pas aller vers les gens, qui va être obsédée par son cheval et tous les trucs qui sont autour du cheval.
C'est vu comme pas presque grave. Normal.
Ouais. C'est normal, de toute façon, elle ne fait pas de bruit, elle ne dérange pas.
Elle reste bien à sa place, tout va bien.
Voilà, il y a aussi, chez les femmes, généralement, il y a ce qu'on appelle une suradaptation. Donc, on va masquer énormément, beaucoup plus que les garçons, notamment parce qu'on n'a pas toujours, mais c'est assez fréquent, qu'on a plus envie de rentrer dans le moule, on a plus envie de faire partie de cette communauté, alors que chez les garçons, c'est moins présent.
Okay.
Généralement, ils sont un peu moins traumatisés par l'idée de ne pas avoir de communauté, du moins en étant plus jeunes.
Okay.
Du coup, ça se voit un peu moins.
Ok. Ok, super intéressant. Ce qui fait aussi un lien, parce que du coup, cette apérophonie, dur à dire, a aussi, s'inscrit aussi dans le cadre là, du mois de l'égalité. Et en fait, on a beaucoup discuté avec mes collègues en se disant, mais c'est plus un enjeu d'équité, finalement, c'est ce dont on parlera après la pause musicale là, mais de comment est-ce que du coup il y a des adaptations, des aménagements qui sont possibles à la fac, et ça c'est plus un enjeu d'équité que d'égalité finalement, pour que tout le monde ait accès aux mêmes chances quoi. Mais finalement on trouve toujours des liens avec aussi l'égalité quoi, parce que s'il y a aussi cet enjeu là de biais genré, de sous-diagnostic, bon, on voit que tout se croise.
Puis surtout c'est très marqué le fait qu'il y a généralement plus de 5, entre 5 et 10 ans de différence entre l'âge du diagnostic chez un garçon et chez une fille.
Ah oui, oui.
C'est 5 à 10 ans plus tard pour des autismes qui se ressemblent assez. C'est assez impressionnant la différence.
Ah, c'est ouf.
C'est très important. Et il y a même des gens qui disent encore que les filles ne peuvent pas être autistes.
C'est pas possible, voyons.
Ils sont juste timides. Voilà.
Ok. Bah, du coup, on parlera des aménagements juste après la petite pause musicale.
Je vous remercie toutes les deux. Tout de suite sur Radio Campus Grenoble, The Cramps avec Gougou Muck. Et on se retrouve juste après pour la suite de cette apérophonie. A tout de suite.
Show up the Goo-Goo Mob. I'm the ninth head hunter looking for some head with a way out body underneath that head. Yeah, I'll get you, baby, with a little luck, 'cause I'm a we'll
Sur Radio Campus Grenoble 90.8 dans cette apérophonie qui parle d'autisme. Je suis avec Colinda, Fanny et maintenant Anaïs et je vais leur laisser la parole tout de suite.
Bonjour, je viens de vous rejoindre. Le début de la conversation était hyper intéressant et du coup on va continuer sur toutes ces questions et on parlait d'équité. Comment ? Et on parlait d'équité sur... sur les aménagements, notamment à la fac. Et d'après toi, en tant qu'étudiante, quelles sont les difficultés que tu peux rencontrer, que ce soit dans les transports, dans les amphis, dans les salles de classe ?
Alors, ce qui est intéressant dans cette question, c'est que, genre on a dit transport, amphi, salle de classe, ce qu'il faut savoir, c'est que, comment dire, l'autisme, il ne va pas s'en aller quand on va sortir du transport ou quand on va sortir de l'amphi. C'est sur toute notre vie. Du coup, tout est impacté. Par exemple, il y a certaines personnes qui ne supportent pas de sortir quand il pleut. Parce que les odeurs, parce que ça glisse, parce que c'est mouillé, parce que c'est insupportable, parce que du coup, les sols dans les classes sont très mouillés, les odeurs changent, etc. etc. Donc du coup, des fois, il y a aussi ça à prendre en compte. Il y a toute l'organisation autour de ce qui est genre dans le du base de l'étudiant. Donc du coup après dans les transports, il faut gérer les coups de feu entre guillemets où là où il y a énormément de monde. Généralement ça pose beaucoup de problèmes aux personnes autistes, notamment parce qu'on peut être très sensible aux odeurs, parce qu'on peut être très sensible au bruit. Généralement je sais que personnellement quand je vois une classe de petits enfants qui arrivent à l'arrêt de tram ou qui vont pour rentrer dans le tram, je sors du tram. Ouais. Systématiquement, parce que je sais que je supporte très très mal des bruits comme ça, extrêmes, et que malgré le fait que je vais avoir mes écouteurs avec une chanson très forte qui va couvrir un peu, je sais que ça couvre pas assez. Des choses comme ça, ça peut être très compliqué. Dans les amphis, par exemple, ce qui peut être très compliqué, c'est par exemple le micro du professeur, il est mal réglé. La voix, elle est stridente, c'est insupportable, ça arrache les oreilles, c'est compliqué de suivre. Ça peut être aussi le fait que... dans un amphi, les gens, ils vivent. Donc, ils font du bruit, ils toussent, ils rigolent, ils discutent. Ça peut être très compliqué de suivre un cours avec autant de distractions. Encore plus si, par exemple, vous avez déjà du mal à rester accroché à votre cours parce que déjà, votre cours, il ne vous intéresse pas plus que ça et vous étiez obligé de venir et que vous n'en avez rien à cirer. C'est très dur pour une personne autiste de suivre quelque chose qui ne l'intéresse pas. Notre cerveau, il n'est pas fait pour ça, et du coup, c'est très compliqué. Du coup, quand on va se retrouver dans un milieu comme ça, encore plus compliqué, c'est un truc de fou. Donc ça, c'est, les amphis, je pense que c'est assez terrible, mais ce qui peut être aussi terrible dans les salles de classe, par exemple, ça peut être les problèmes de chauffage. Soit il fait très très chaud, soit il fait un froid monstrueux. Ça fait flic tout le monde, entre guillemets. Chez nous, ça peut être la chose qui va faire déborder le vase. Parce que déjà, c'est bruyant quand même dans les salles de classe. Les gens sont rarement très silencieux et les salles de classe sont souvent avec des halogènes. Ça peut beaucoup déranger aussi.
Je t'interromps, c'est quoi un halogène ?
C'est la lumière, c'est ce tube de lumière très qui fait une lumière d'hôpital.
Ah oui,
ce truc est bien agressif qu'on ne peut pas vraiment régler et qui peut être très gênant chez certaines personnes. Pour un peu que l'halogène soit sur le point de griller et qu'il clignote, c'est la fin du monde. Ça peut créer des tics, ça peut créer des réactions physiques. Et après, du coup, il arrive ce qu'on appelle l'angoisse. Parce que du coup, il va falloir se contrôler pour pas que, on va dire, nos tics ou nos réactions ne soient pas trop disproportionnées. Parce que si jamais les gens les remarquent, là, les gens vont se poser des questions. Les gens vont se poser des questions, les gens vont réagir. Et généralement, ça nous met très mal à l'aise. Non seulement ça nous met très mal à l'aise, mais en plus de ça, les gens vont pas forcément avoir beaucoup de tact. Il va y avoir, par exemple, si je me mets à me balancer parce que je supporte plus le bruit incessant de la classe, il y a de grandes chances que mon professeur me demande d'arrêter de me balancer. Sans comprendre que c'est ma façon de faire en sorte de survivre, entre guillemets, au cours. Et du coup, ce genre de choses très concrètes peuvent poser énormément de soucis. Et là, on parle de journées lambda. Je vous laisse imaginer quand il y a des grèves. Ou du coup, en plus de ça, genre, on ne sait pas comment va se dérouler notre journée. On ne sait pas si on va pouvoir rentrer chez nous. On ne sait pas s'il va y avoir des trams. On ne sait pas quand est-ce qu'il va y avoir des trams. Généralement, on aime beaucoup nos petites routines très fermées, très simples. C'est pareil, les emplois du temps qui changent énormément. Généralement, on n'aime pas trop. Genre, on aime bien quand les choses
sont structurées.
Voilà. Quand on a toujours cours au même endroit, c'est bien aussi. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas du tout le sens de l'orientation et qui se perdent très facilement. Énormément. Et il y a des personnes, je sais, qui sont absolument terrifiées d'avoir cours dans une salle où ils ne sont jamais allés. Donc, nous, on avait essayé de faire en sorte qu'on puisse faire visiter un petit peu le campus. C'est des choses qui peuvent être faites avec le SH.
C'est pas évident de se repérer en plus sur le campus.
Voilà, le campus, c'est grand, extrêmement grand. Et même si on a souvent cours que dans une petite partie du campus, ça peut rester compliqué si toutes les semaines, les salles changent.
C'est sûr. Des fois, d'une heure à l'autre, ça change une salle. Donc, c'est vrai que ça
peut être
évident.
Ça peut être très compliqué. Et chez nous, ça crée une vraie détresse. Genre, ce genre de choses, changer la routine, généralement, ça se finit très mal, généralement. Après, il y a des gens qui sont un peu moins psychorigides, j'ai envie de dire. Mais c'est très rare. Ou alors, on apprend à être moins psychorigide en créant des plans. Donc, on a plan A, B, C, D, et du coup, on prépare.
Et par exemple, c'est quoi un plan A et ça serait quoi ton plan B sur une journée?
Par exemple, journée type aujourd'hui, il y a grève. Il y a des possibilités de grève. On sait qu'il va probablement y avoir des problèmes ce soir. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais très peur qu'il n'y ait pas de tram. Alors du coup, j'ai réfléchi. Comment est-ce que je peux aller à cette apérophonie et être sûre de rentrer chez moi? Du coup, je me suis dit, bon, il faut que je prenne mon vélo. Mais bon, si je prends mon vélo, je vais être fatiguée. Alors, il faut que je fasse une sieste avant de venir. Il faut que je m'organise pour avoir pensé à bien manger aussi. Parce que du coup, je vais être épuisée. Ce genre de choses, ça peut être un plan A, B. Par exemple, au départ, mon plan A, c'était de prendre le tram et de venir en tram. Bon, du coup, c'était pas possible. Du coup, j'avais mon plan B qui était déjà prêt. Je dois avouer que le plan C, c'était d'annuler.
Ouais, normal.
Voilà. Genre, si j'avais pas eu l'occasion de pouvoir prendre un vélo ou autre, j'aurais probablement annulé. Si jamais il y avait une grève, une manifestation qui s'était déclarée, je serais probablement pas venue non plus. C'est des petites choses comme ça. Mais généralement, les avoir préparées, même si du coup, c'est toujours aussi psychorigide, parce qu'il faut que ça rentre dans les cases, ça peut aider à gérer les imprévus. C'est une solution qu'on utilise.
Mais t'as pris un exemple et t'es pas obligé de me répondre, je veux savoir ton point de vue là-dessus. Je sais qu'on n'est pas obligé de dire à l'université, on n'est pas obligé de justifier nos absences à chaque fois. En tout cas pour certaines, on va dire, j'ai perdu le mot. Non mais pour certaines papiers d'attestation, bref.
Est-ce que la distance d'assiduité.
Merci, j'avais pas perdu le mot.
C'est un aménagement, oui.
Est-ce que, du coup, toi, tu préviens tes professeurs ou pas?
Alors, ça dépend des professeurs, en fait. Là, c'est vraiment une question du professeur. Il y a des professeurs qui vont insister pour qu'on les prévienne. Moi, je trouve que c'est très contre-productif. Oui. Parce que généralement, si on ne vient pas, c'est qu'on n'est pas capable de venir. Donc, si on vous prévient, c'est que généralement, en fait, c'est compliqué d'aller même vous prévenir. Envoyer un mail, c'est extrêmement stressant. Ça me prend toujours plusieurs heures, généralement, d'envoyer un mail. Surtout un professeur, c'est très compliqué. Du coup, je trouve ça. Je comprends que les professeurs apprécient d'avoir un message. L'idéal, ce serait qu'on n'ait pas à le faire.
Et vous êtes obligé. Et du coup, pour certains professeurs, vous êtes obligé de le faire malgré.
Alors, ils demandent, ça ne veut pas dire qu'on le fait, parce que du coup, après, ce qui peut arriver aussi, c'est qu'on n'aille plus du tout en classe.
Ouais.
Parce que du coup, si c'est trop compliqué d'avoir une relation avec le professeur, que le professeur me dise, vous, si vous avez un problème, vous pouvez me contacter, c'est pas la même chose que, genre, si vous ne venez pas, vous devez me contacter. C'est pas la même chose. Qui nous demande, après coup, de lui dire, j'ai pas pu venir, est-ce que vous pouviez me faire un message pour que je puisse vous envoyer les cours, même si c'est après, pourquoi pas. Après le coup du envoyez-moi un message si vous venez pas, c'est un peu compliqué souvent, que surtout des fois on sait pas avant de sortir
que oui, c'est pas prévu
qu'on peut pas quoi. Généralement c'est pas surtout dans le cas d'une quand on a eu la dispense d'assiduité, donc qui est un aménagement qui est reconnu par l'UJA. Généralement, si elle est mise en place, c'est pas pour rien. Voilà.
Justement, tu parles de la dispense d'assiduité. Qu'est-ce qui existe d'autre comme aménagement à l'UJA pour
Alors, je connais pas tous les aménagements, ouais. Mais il y en a pas mal. Il y a notamment le tiers-temps. Il y a aussi ce qu'on appelle l'année en deux ans, en fait. Donc, en gros, on fait la moitié de nos cours à chaque fois. Et du coup, on valide une année, donc une L1 en deux ans.
Ok.
J'ai ça un mot, mais je me souviens plus.
L'année découpée, non, c'est pas un truc.
Je sais que c'est un nom, je sais plus, je suis désolée.
On a l'idée.
Voilà, donc c'est les majeurs, entre guillemets. Il y a aussi normalement l'aménagement des oraux, des écrits. Donc il peut y avoir le tiers-temps, mais on peut aussi demander une salle seule. On peut demander un scribe. Ça, c'est assez spécifique, mais c'est des choses qui existent à l'UJA. Il y a un peu plus d'aménagement, mais de tête, comme ça. C'est ce auquel je pense, en tout cas.
Ok. De ce que je sais, pour bénéficier de ces aménagements, il faut aller vers le service accueil handicap, le SAH. Vous êtes sûrement pas mal en contact avec eux, avec l'association, j'imagine.
Oui, on a pu discuter pas mal de fois ensemble, ouais.
Est-ce que tu vois ce que c'est les étapes pour la démarche pour bénéficier de ces aménagements
Alors, totalement. Alors, généralement, on va dans un premier temps se diriger vers le SAH, et le SAH va vous dire, au fait, il faut que vous passiez au centre de santé d'abord. Parce que du coup, le centre de santé universitaire va faire, en fait, l'avis médical, et c'est cet avis médical qui va permettre de mettre en place les aménagements. Donc, c'est des recommandations médicales, ils vont clocher les cases, dire, oui, j'atteste que un tel a besoin de ça, 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 ça. Et une fois qu'il y a ça, on va au SAH. Le SAH, il prend connaissance du truc et il fait, ok, d'accord, on va prendre contact avec votre scolarité. Et une fois qu'on a pris contact avec la scolarité, normalement, les aménagements sont pris en compte.
Ok.
Sauf que, là, il y a un sauf que, généralement, quand on arrive à cette étape-là, on se dit, c'est bon, tout va bien, je vais arriver en cours. Mes aménagements vont être mis en place. Absolument pas. Je crois que c'est jamais arrivé, déjà. C'est des choses qui n'arrivent pas. Généralement, il faut déjà se présenter au secrétariat, leur rappeler qu'on est bien en situation de handicap, qu'on a des aménagements, etc. Et après, il faut aller voir chacun de nos professeurs pour leur donner notre liste d'aménagements, leur expliquer. La plupart du temps, ils ne sont pas formés. Ils ne savent pas comment réagir et ils ne savent pas trop d'où ça sort, à peu de choses près. Ils ne sont pas au courant.
Il n'y a pas un référent handicap dans chaque filière, normalement, qui pourrait s'occuper de la coordination quoi, avec les
Alors,
profs.
Normalement, il peut y avoir un référent handicap. Ce n'est pas toujours un professeur.
Ouais.
Il se peut que ce soit quelqu'un de l'administration. Dans les deux cas, c'est assez rare que le professeur que le référent handicap aille directement voir le professeur pour leur dire, au fait, vous avez tel étudiant et il faut faire ça, 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 parce qu'il est en situation de handicap. Ça arrive, et ça arrive de mieux en mieux, parce qu'ils sont un peu mieux formés au fur et à mesure. C'est assez récent, mais ils commencent à avoir des formations pour les référents handicap, parce que ce n'était pas le cas non plus.
Ok, voilà. Ah ouais.
Donc ils commencent à avoir des petites formations, et du coup ça commence à se faire. Mais la plupart du temps, les professeurs tombent des nues quand on arrive avec nos aménagements. Ils sont là, ah bon, vous avez des aménagements. Ou, ah oui, j'avais entendu parler d'eux.
D'accord.
Ça s'arrête à peu près là. Et du coup, quand on leur dit, au fait, j'ai besoin que vous m'envoyiez les cours en avance, par exemple. Ça peut être une des choses qu'on demande pour pouvoir préparer le cours, pour pouvoir être plus présent pendant le cours, par exemple. Pour avoir le temps de l'avoir assimilé aussi, parce que souvent, on a des petits problèmes d'assimilation des connaissances. C'est assez fréquent chez nous. Et bien là, on va avoir des profs qui font « Ah ben non, en fait, je ne vous enverrai pas mon cours. » Et nous, on ne peut rien faire. Il y a aussi des professeurs qui vont dire « Non, mais du coup, le tiers-temps, c'est compliqué. Du coup, je vais t'enlever des questions. »
Ils font leur propre...
Ils font un peu leur propre tambouille. Truc, ouais. Et c'est compliqué d'avoir et gain de cause auprès du professeur et auprès des secrétariats ou autres. Même le SAH est très impuissant face à ça. Et c'est très inégal suivant les filières.
D'accord.
Il y a des filières où ça se passe très bien, il y a des filières même où les professeurs ne notent pas l'orthographe aux personnes dyslexiques, et il y a des filières où ça passe pas du tout.
Ah là là, ouais, ça dépend vachement.
Ça, c'est, le problème, c'est que c'est un peu à la tête du client. Et c'est même si fréquent que, par exemple, quand on fait l'année en 2 ans, généralement, le secrétariat nous explique qu'il nous faut une fleur. À peu près, à tous les coups. C'est pas quelque chose d'isolé. Genre, on est une vingtaine dans l'association, ça a bien dû arriver à la moitié d'entre nous, le coup de la fleur. Et nous, on a regardé, et effectivement, c'est parce qu'on n'est pas un cas prévu dans le règlement des études. Voilà. Du coup, c'est bien marqué qu'effectivement, on a droit à un traitement de faveur parce qu'on est en situation de handicap. Sauf que c'est à peu près tout. Il n'y a pas de... Alors effectivement, ça aide au cas par cas, mais du coup, on n'est pas protégé non plus. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se défende systématiquement et pour avoir accès à nos aménagements et pour qu'ils soient respectés.
Ok.
Sauf que ça peut être extrêmement drainant parce que c'est déjà compliqué quand on a un handicap, encore plus quand c'est un handicap invisible. Mais quand en plus de ça, donc il faut gérer et son handicap invisible et l'administration et les professeurs et en plus de ça, se défendre contre eux.
Ouais, en fait, ça, c'est un travail qui... Enfin, idéalement, hein, je leur jette pas la pierre parce que j'imagine que, déjà, tu as dit, c'est récent qu'ils soient formés, les référents handicap. Oui. Et en plus, c'est pas leur poste. Enfin, ils ont aussi des missions à côté. Mais bon, idéalement, en fait, il faudrait qu'ils soient beaucoup mieux formés et qu'ils fassent cette charge mentale-là de coordination, de lien avec les profs.
Parce que finalement, ça vous rajoute une charge mentale monumentale, c'est le cas de les dire. Et en fait, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour réussir à le faire rentrer, par exemple, dans le règlement? Est-ce que tu as une petite idée?
Bah, il faudrait peut-être demander au directeur de l'UGA, mais du coup, il faudrait qu'il demande ça à toutes les composantes et que toutes les composantes soient d'accord. Mmh. Parce que les règlements des études changent d'une composante à l'autre. Nous, a priori, de ce qu'on a pu observer, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de cas prévu. C'est marqué, effectivement, il faut faire quelque chose. C'est à peu près tout ce qui est marqué. Si on pouvait être un peu mieux protégé, ça ne changerait pas forcément grand-chose non plus. Parce que l'UGA manque de moyens, on le sait. Et du coup, tant que les moyens ne seront pas mis non plus en palace, ça ne servira à rien, entre guillemets, de le mettre dans le règlement des études. Après, on espère, on voit quand même des choses qui se passent. Il y a des sensibilisations, des professeurs qui s'intéressent aussi aux choses. Il y a maintenant des professeurs qui arrêtent de nous demander pourquoi on a nos aménagements, ce qui est génial, parce qu'ils n'ont pas à demander. Hein, et vous n'êtes pas tenu de leur répondre non plus, hein, peu importe qui vous êtes. Genre, si vous avez un handicap et que vous avez un aménagement, le professeur n'est pas en droit de vous demander pourquoi. Genre,
d'accord.
Que ce soit le professeur ou le référent handicap, d'ailleurs.
Toi, c'est quoi ta stratégie slash préférence? Est-ce que c'est un sujet que tu préfères avoir avec les profs pour, comment dire, voilà, leur dire, bon, bah, moi, voilà, je suis autiste, du coup, j'ai besoin de ça, ça. Si je fais ça, c'est pas parce que j'écoute pas, c'est parce que j'ai besoin de me focus sur quelque chose. Ou est-ce qu'au contraire, des fois, il y a des réactions négatives et t'estimes que t'es pas obligé de leur dire et que tu leur dis pas ou...
Ça va vraiment dépendre des professeurs. Il y a des professeurs qui vont être très compréhensifs tout de suite. Et à ce moment-là, je vais peut-être me sentir suffisamment à l'aise pour leur dire « En fait, c'est parce que je suis autiste. J'ai besoin que vous fassiez un peu plus attention à ça et ça. Mais c'est pas toujours le temps. C'est pas toujours le choix. Enfin, c'est pas toujours comme ça. Il y a même des professeurs où des fois, on peut pas le savoir avant d'avoir dit le mot. Et tout d'un coup, il change. Tout d'un coup, on comprend pas trop. Et il y a eu un retournement de situation, on comprend pas. Il y a des professeurs qui pensent comprendre, mais parce qu'en fait, ils ont les stéréotypes.
C'est très ancré.
Des stéréotypes assez des médias, en fait. Et du coup, ils ne comprennent pas non plus. C'est un problème de sensibilisation. On le sait, nous, on essaye de faire notre mieux pour sensibiliser un petit peu. C'est aussi l'un des objectifs de notre association. On le sait, ça avance tout doucement, mais c'est pas rare qu'il y a un professeur qui nous regarde. Comment ça ? Tu es une femme, pourquoi tu es autiste? Qu'est-ce que tu fais à l'université? Tu es autiste? Des choses comme ça, c'est pas rare. C'est très très loin d'être rare. Et des fois, ils oublient que l'éducation, c'est un droit. Genre, de temps en temps, ça arrive.
C'est clair. Du coup, tu as parlé de salle de repos, si j'ai bien compris. C'est quelque chose qui est en cours, qui n'est pas encore créé.
Pas du tout. On est en train d'en discuter pour essayer de le monter.
Ouais. De peut-être, du coup, cet enjeu aussi de se décharger de cette charge mentale en améliorant peut-être la formation et peut-être libérer du temps aussi sur les postes des personnes qui sont référentes handicap. Qu'est-ce que tu vois d'autre comme piste d'amélioration, revendication, quoi, un peu, qui pourrait y avoir?
Je pense très sincèrement que ça, c'est important. Enfin, tous ces points-là sont très importants. Je pense que la salle de repos, on la sous-estime. Une salle de repos, c'est vraiment un endroit où on peut arrêter de porter notre masque. Parce qu'il faut savoir que là, actuellement, je porte un masque extrêmement épais, d'accord ? Genre, on ne se rend presque pas compte de mon autisme quand je parle. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Ça ne veut pas dire non plus que parce que maintenant, je suis capable de porter mon masque, que demain, je serai capable de le porter. Avoir une salle de repos réservée aux personnes autistes, ça voudrait dire ne plus avoir à porter le masque, être dans un endroit où on peut se sentir capable de se reposer, parce qu'il faut savoir que c'est pas le cas. Il y a aucun endroit sur le campus qui est adapté à prendre une vraie pause pour une personne autiste. C'est pas le cas. Il y a rien. Même si on dit les BU et autres, c'est
même pas... les BU, par exemple à la BU Science, là, l'espèce de petite salle avec des transats et tout, c'est pas.
Non, c'est pas adapté pour plein
qu'est-ce
de
qu'il faudrait. Qu'est-ce qu'il faudrait, par exemple, pour faire une salle un peu adaptée pour vous, pour se reposer, pour.
Alors nous, on avait pensé dans un monde des bisounours. on espère pouvoir monter à terme ce qu'on appelle une sensory room en anglais, et en gros, c'est une salle où on peut gérer justement tous nos problèmes sensoriels, que ce soit avoir plus d'input ou moins d'input. Donc que ce soit se mettre dans le noir, que ce soit avoir des jeux de lumière très spécifiques qui peuvent aider le cerveau à se calmer, que ce soit d'avoir de la musique très relaxante ou au contraire de pouvoir porter un casque anti-bruit extrême, que ce soit pouvoir se balancer, que ce soit pouvoir s'allonger, que ce soit pouvoir dormir aussi, parce qu'on a besoin de dormir en fait dans ce moment, on est épuisé, c'est vraiment un épuisement physique. Des choses comme ça, on espère pouvoir mettre ça en place. Je ne pense pas qu'on ira jusque-là, mais si on peut déjà avoir une salle où on peut au moins couper la lumière et avoir des endroits où les gens peuvent s'allonger pendant un moment, ce serait cool. Ce serait déjà énorme.
Ok, je vais juste revenir un tout petit peu sur un peu un point un peu informatif pour les personnes qui écoutent, sur les démarches que tu as évoquées tout à l'heure. On a discuté du coup avant de faire cette apérophonie avec deux psychologues du CSU qui nous ont aussi un peu expliqué comment ça se passe et tout. Donc ça démarre au SAH, en fait sur le site du service accueil handicap où il faut remplir un formulaire en ligne. Et effectivement après c'est redirigé au CSU pour avoir... un rendez-vous avec des conseillers handicap, si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite, ça retourne au SAH. Et ensuite, effectivement, l'aménagement qui est personnalisé en fonction des études, de la filière. Ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être diagnostiqué autiste pour avoir ces aménagements. Parce que si j'ai bien compris, le diagnostic, ça peut prendre super longtemps.
C'est très, 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 très long.
Ouais.
C'est très long déjà parce que souvent, on est mal diagnostiqué, de base, déjà pour commencer. Et une fois qu'on a une idée que, bah oui, ça peut être ça, généralement, il y a 2 à 3 ans d'attente.
Ah ouais, ouais, ouais.
Du moment où on pose le dossier, sachant que quand on pose le dossier, on est déjà sûr qu'on est autiste, en fait, à peu de choses près. C'est très rare que quand on va poser un dossier, qu'on ne soit pas à peu près sûr. Et si ce n'est pas l'autisme, généralement, c'est le TDAH ou trouble associé, quelque chose du style. Et ces 2 ans... entre 2 et 3 ans, sur la filière courte.
Wow.
Il est important de le préciser.
Okay.
Ça peut être un peu moins long en libéral, mais c'est très, très, très onéreux. Et même là, ça reste très long.
D'accord.
Il y a quand même des délais de 1 an, 1 an et demi.
Ouais. D'où l'importance de savoir, du coup, qu'il n'y a pas besoin d'avoir fini ce processus de diagnostic ou même de l'avoir entamé, quoi, pour demander des aménagements.
D'ailleurs, c'est valable pour tous les handicaps et pas que le handicap de l'autisme.
Ouais, ouais.
Si jamais vous avez un problème, il faut aller en parler, il faut aller voir le centre de santé. Et si jamais vous avez des soucis dans vos études, ils sont là pour ça et ils savent vous écouter et ils sont au courant des choses et ils peuvent vous aiguiller.
C'est ça. Et depuis tout à l'heure, en fait, je dis CSU, SAH, mais du coup, SAH, c'est bien Service Accueil Handicap, CSU, Centre de Santé Universitaire. Les deux sont situés pas loin de l'arrêt de tram Taillé Université. Et voilà, ce sont très, très ouverts, très souvent ouverts, très accessibles pour tous les étudiants et les étudiantes.
Ils sont bien informés, c'est important aussi.
Effectivement. Voilà, et de manière générale, en fait, la question des aménagements, enfin, c'est... C'est vraiment une question qui concerne tout le monde, en fait. C'est la réflexion qu'on s'est faite aussi avec les collègues Relais Égalité. Parce que, en fait, le handicap, tout le monde est susceptible d'être dans une situation de handicap. Bon, là, on parle d'autisme, donc c'est un handicap depuis la naissance, donc c'est différent. Mais handicap au sens large, qui peut nécessiter du coup un aménagement,
Avec la dépression.
Voilà.
La dépression, ça touche tout le monde.
N'importe quelle situation qui fait qu'on n'est plus apte à faire face, ou qui fait qu'on rencontre des difficultés quoi, dans la vie sociale, dans les études, ça, c'est un handicap au fait. Il faut savoir qu'il y a 85% des personnes handicapées aussi qui le deviennent au cours de leur vie, même des handicaps moteurs peuvent nécessiter des aménagements. Enfin, la question des aménagements et de se battre pour qu'on ait accès à des aménagements de qualité, en fait, ça concerne vraiment tout le monde. Même si aujourd'hui on parle d'autisme plus spécifiquement, mais handicap au sens large, on est tous amenés à peut-être être concernés. Donc,
D'ailleurs, ce sujet me fait penser à quelque chose. Il y a cette histoire d'équité. L'idée de oui, mais si on vous donne cet aménagement, vous comprenez, il faudrait qu'on le donne à tout le monde. Alors, il faut savoir que de notre point de vue, nous, ça ne nous pose pas de problème. Genre, je ne vois pas le problème de donner plus d'aide aux gens, d'accord, si de toute façon c'est compliqué. Si c'est extrêmement compliqué pour nous, ça ne veut pas dire que ce n'est pas compliqué pour d'autres personnes. Donc, très fréquemment, c'est un peu leur argument. Je trouve cet argument un peu bizarre dans l'idée où je ne vois pas l'intérêt de se rendre la vie plus compliquée quand on peut faire quelque chose de plus simple pour tout le monde. L'idée, ce n'est pas de... Genre, quand on fait des choses pour les aménagements pour le handicap, finalement, ça ne sert pas que aux personnes qui sont en situation de handicap.
Déjà, voilà.
Genre, c'est aussi ça qu'il faut réfléchir quand on parle d'aménagement.
Ce que tu dis est vrai, mais c'est aussi comment dire, il y a un souci d'équité, en fait. Les personnes autistes font face à plus de difficultés, enfin des difficultés spécifiques en tout cas, que des personnes, neurotypiques.
Oui, neurotypiques.
On peut pas faire face, donc c'est... On parle pas d'égalité de traitement, on parle d'équité, c'est-à-dire que si tu fais face à plus de difficultés, vu que tu as le droit aux mêmes choses, il faut qu'on te donne plus d'aménagements pour que tu puisses y accéder. Donc en soi, après, c'est aussi vrai hein, que de toute façon, les aménagements, une fois qu'ils sont en place, ils vont s'allargir et bénéficier en plus. Imaginons qu'il y ait une super salle calme incroyable qui est mise en place. Il y a sûrement des personnes qui ont besoin de cette salle calme, même si elles ne sont pas autistes, qui en bénéficieront et c'est génial. Mais, comment dire, c'est un peu un argument plan B, quoi, parce que, enfin, je sais pas, l'enjeu d'équité, c'est l'argument central.
L'idée, c'est que pour avoir une certaine équité, il vaut mieux augmenter les droits de tout le monde plutôt que baisser les droits d'autres pour qu'ils soient au même niveau que les autres. Je veux dire, ça n'a aucun sens.
C'est le cas, hein. Genre, on nous refuse des fois nos aménagements parce que c'est pas équitable pour les autres.
Oui, ils en deviennent en fait injustes.
C'est complètement un contresens, quoi.
Comme voilà, ouais. C'est pour ça que je dis, non, mais si jamais vous trouvez que c'est pas équitable, genre.
Mais je comprends que cet argument est utilisé, mais voilà. C'est un contresens total. On va laisser place à la petite pause musicale avant notre dernière partie de tout à l'heure. On va un peu ouvrir aussi à ce qui se passe, dans quel cadre s'inscrit déjà cette apérophonie, la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, tout ça, tout ça.
À tout à l'heure.
Thank you.
nous nous retrouvons et j'en profite pour faire un point sur la cellule de Sienne Allemand, car l'handicap est l'état de santé qui représente le premier motif de discrimination dont le défenseur des droits a été saisi. À ce titre, vous pouvez le signaler grâce à la cellule de signalement qui permet précisément de signaler toutes les formes de harcèlement et de discrimination répertoriées par la loi. On rappelle aussi que la Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme aura lieu le 2 avril. Alors, est-ce que vous avez déjà eu recours justement à cette cellule et qu'est-ce que tu peux nous en dire ?
Alors déjà, je savais qu'elle existait, mais je ne savais pas qu'on était concernés, par exemple. Généralement, quand on parle de cette cellule, on parle souvent de soucis de discrimination. Et on inclut quand même rarement le handicap. Notamment, probablement, parce qu'on a tendance à très vite se retourner vers le SH et que le SH tente, tant bien que mal, de nous aider. Je pense qu'il faudrait qu'on soit plus nombreux à aller directement à cette cellule. Mm-mm. Parce que des fois, il y a des professeurs qui sont problématiques parce qu'ils ne sont pas formés, parce qu'ils ne comprennent pas. Et que des fois, en fait, c'est juste ça qui leur manque. Et le SH n'a pas le pouvoir de leur dire « Vous avez besoin d'une formation. »
C'est une question de compétence.
Voilà. Ils ne peuvent pas non plus la fournir. Ouais. Alors que peut-être que cette cellule peut faire en sorte, s'il y a assez de signalement aussi, de faire en sorte qu'il y ait des cellules qui soient mises en place pour justement sensibiliser plus au handicap. Et rappeler que non, ce n'est pas normal qu'on nous refuse un aménagement par question d'équité pour les autres étudiants. Normalement, c'est censé être équitable pour nous. On est déjà en situation de handicap, c'est compliqué pour nous. Il faut savoir que la plupart du temps, moi j'en ai beaucoup discuté avec mes camarades, etc., quand ce genre de choses arrive, on nous fait culpabiliser. On nous explique qu'on leur prend trop de temps, qu'on leur prend trop d'énergie, que c'est trop compliqué pour eux. On est dans nos droits. Je sais que c'est compliqué, je sais qu'on ne peut pas toujours tout mettre en place, mais on est dans nos droits. Et quand nos droits ne sont pas respectés, il ne faut pas qu'on se sente coupable, il ne faut pas qu'on se sente... Il ne faut pas que les professeurs puissent nous dire « Non, mais vous comprenez, ce n'est pas bien. » Non, c'est vous qui faites une erreur actuellement.
Clairement.
On est censé avoir nos aménagements. Merci de les mettre en place du mieux que vous pouvez, pour de vrai. Faites pas semblant d'essayer. Et ça, je pense que c'est un tabou, parce que du coup, on nous dit tout le temps qu'on nous fait des fleurs. Donc, dans cette idée, vous dérangez, on vous fait des fleurs. C'est pas censé être comme ça.
Puis rien change, quoi, si on reste dans cette idée de « Oh, on vous fait une exception
».
Le système, il change pas trop, quoi.
C'est exactement ça. Donc, j'invite tous ceux qui ont des problèmes comme ça à aller à la cellule de signalement et à le dire. Pour penser aux autres, pensez pas qu'à vous, parce que quand vous signalez pas que pour
exactement.
Vous. Vous signalez pour tous ceux qui passeront après vous. Nous, quand on monte cette association, on sait très bien qu'on n'en verra pas les fruits tout de suite. On sait qu'on monte cette association pour les étudiants qui arriveront après et qui auront du coup un point de référence, qui auront un endroit où aller discuter de tout ça, de pouvoir dire « Il y a ce professeur, il m'a dit ça ». Est-ce que vous trouvez ça normal ? Et à ce moment-là, pouvoir rencontrer quelqu'un qui dit « Non, ce n'est pas normal ». C'est d'ailleurs grâce au groupe de parole du centre de santé qu'on s'est aperçu que c'était beaucoup plus fréquent que ce qu'on croyait. Donc d'ailleurs, merci à eux et leur groupe de parole qui sont si importants. Genre, n'ayez pas peur d'aller à ces cellules de signalement. Genre, je pense que c'est très important.
En fait, surtout que je tiens à préciser que... tout signalement ne figurera pas sur votre dossier et que vous pouvez être anonyme. Parce que je peux comprendre d'avoir peur de dénoncer une situation qui n'est pas normale et d'avoir des répercussions. Si c'est un professeur, ça peut être vite dérangeant. Alors sachez que ça ne figurera pas sur votre dossier et que vous pouvez rester anonyme si vous le souhaitez. Mais un signalement, ça permet en fait pour les... Tu l'as bien dit, pour que les autres personnes qui signalent, on remarque en fait le côté... qu'on le signale, en fait, que ce professeur-là, il a déjà eu 3 signalements par rapport à ça, c'est pas normal, en fait. Et de là, on peut créer un dossier et agir.
Ce qu'il faut savoir sur la cellule de signalement, c'est pas un truc automatique où l'on remplit en ligne et après, on n'a plus aucune maîtrise sur ce qui se passe. C'est un formulaire qu'on trouve hyper facilement sur le site de l'université. Mettant cellule de signalement, UGA, on tombe direct dessus. On le remplit et en fait, ce qui se passe, c'est que ça met en contact la personne qui a fait le signalement avec des personnes qui sont formés exprès pour gérer cette cellule-là. et qui accueille en fait la personne et qui partent de ce que la personne a envie de faire. Si la personne a juste envie de faire remonter ce qui s'est passé pour que ça fasse, comme tu disais Anaïs, un antécédent et qu'ensuite ben, ça fasse des remontées et que ça puisse évoluer pour les années qui arrivent, ce sera ça qui se passe. Si la personne, elle a vécu une situation qui l'a mise mal, qu'elle a besoin d'une ou deux séances de psy, elles vont l'accompagner là-dedans. Elle s'appelle cellule de signalement, mais je trouve que ce n'est pas assez explicite le nom. C'est aussi une cellule d'accueil, d'écoute, et en fait deux personnes qui sont formées exprès pour et qui font « Ok, de quoi tu as besoin? Qu'est-ce qu'on fait ?» Ce n'est pas un truc qu'on envoie en ligne et ensuite on ne sait pas quelles répercussions ça a et on ne maîtrise plus rien, quoi.
Je pense qu'on a tout dit pour cette émission qui était vraiment enrichissante et qui nous a beaucoup appris sur ces handicaps qu'on ne voit pas forcément au premier regard.
C'est ça, handicap invisible.
Et bah, du coup, je vous remercie toutes les trois d'être venues dans l'Apéro Fony. Tu voulais rajouter quelque chose ?
Alors, je voulais juste faire un petit peu de pub pour notre association.
Bien
Sachez
entendu.
Qu'on accepte tout le monde dans notre association. On a besoin d'aide si vous voulez être bénévole, si vous voulez venir nous aider à mettre en place notre Discord, si vous voulez nous aider à venir mettre en place des sorties, des moments de sensibilisation, si vous voulez vous aussi vous sensibiliser ou autre. Venez nous voir, venez vous inscrire, on a une page Instagram, on a un mail, tout sera donné à Radio Campus. Merci si vous voulez venir, si vous êtes autiste, venez aussi, on est très gentils, on ne meurt pas. Il y a de tout, vous pouvez parler de la façon dont vous voulez, communiquer comme vous avez besoin, et on est tous gentils. Voilà.
C'est un beau mot de la fin.
C'est parfait comme mot de la fin. Et pour les personnes qui écouteraient cet épisode en podcast, vous aurez toutes les ressources juste en dessous du podcast en description. Je vous remercie toutes les trois. Je vous remercie d'avoir fait vivre cette apérophonie. Je remercie les auditeurs et auditrices qui nous écoutent tous les soirs. Et je vous dis à très bientôt sur Radio Campus Grenoble. Au revoir.
Et c'était quoi ? L'apérophonie ! Ouais, mais c'était quoi ? L'apérophonie ! C'est quoi ? L'apérophonie !
Quoi ?
Sur Campus Grenoble ! Sur quoi ? Sur le 90.8 !
Ah, sur Campus Grenoble 90.8 !
Oui !